Bonjour tout le monde, bienvenue à tous. On va commencer par la prière. Viens me parler, divin sauveur, nous avons chanté cela. Maintenant nous le demandons ensemble dans la prière, que nous puissions être en silence dans notre cœur. Faire taire ces pensées, cette foule de pensées, nos inquiétudes du moment, pour nous concentrer sur toi, Seigneur. Et nous te prions que, dans ta bienveillance, tu veux bien t'adresser à nous, nous éclairer dans notre esprit, nos pensées, mais aussi toucher notre cœur. Tu sais de quoi nous sommes faits, tu sais ce avec quoi nous luttons. Te prions de venir à notre secours et que ce moment, passé ensemble à ton écoute, nous fasse du bien, individuellement mais aussi collectivement. Amen. Nos jeunes sont au camp, quelques-uns de nos jeunes sont au camp, et ça m'a fait réfléchir au moment où j'étais moniteur de camp et on accueillait les campeurs en début de semaine. Chacun individuellement arrivait avec un grand sac, une grande valise, parce que c'était une semaine de camp qui commençait. Et je me souviens, je me tenais au pied de l'escalier, on devait monter dans les dortoirs, et je disais aux jeunes, est-ce que tu veux porter ton sac ou tu veux que je le porte ? Un petit gringalet de 13 ans, une énorme valise. Et il y en a certains qui disaient, oui, tu peux le prendre. Et d'autres disaient, non, je vais le prendre moi-même. Et ils allaient hisser ce lourd sac jusqu'à leur dortoir. J'étais là, je voulais bien les aider, mais ils décidaient qu'ils voulaient le porter eux-mêmes. Et c'est une image de quelque chose qui nous afflige sur le plan spirituel. Nous portons des charges, des poids, des fardeaux pesants. C'est possible que aujourd'hui tu es consciente d'un fardeau. Peut-être qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le message, tu en seras plus conscient. Mais en tout cas, j'espère qu'aujourd'hui, tu comprends que Dieu est prêt à porter nos fardeaux. Et donc, aujourd'hui, nous puissions passer d'une situation de détresse ou d'angoisse à une situation de paix. Vous savez, on ne peut pas éviter les problèmes dans la vie. Impossible d'éviter des situations de souffrance, des situations stressantes. Je ne peux pas vous donner une feuille de route pour dire voilà comment éviter tout problème, ce n'est pas ça. Mais plutôt, la clé est de trouver en notre relation avec Dieu la réponse. Vous savez, la clé ne se trouve pas en nous, on va le voir à plusieurs reprises. Ce message n'est pas un message motivant qu'on pourrait entendre sur les réseaux sociaux. Crois en toi, concentre-toi sur tes points forts. Non, ce n'est pas ça la réponse. Le message va plutôt se concentrer sur Dieu. Et notre relation avec lui, je veux explorer ce que ça veut dire d'avoir Dieu, l'Éternel, comme notre Dieu, notre berger, notre sauveur. Vous savez, parfois la foi en Christ est vue comme un billet pour le ciel. Vous avez peut-être cette impression en parlant avec des amis qui ne connaissent pas le Seigneur. Ah, c'est bien pour toi, tu as ton billet pour le ciel. Tu sais, quand tu meurs, tu iras au paradis. Oui, c'est vrai. Mais la relation que nous avons avec Dieu est plus qu'un billet pour le ciel. C'est une relation où Dieu est notre Père par Jésus-Christ. Et de jour en jour, nous vivons en recevant l'amour de Dieu pour nous. Donc je vais vous montrer aujourd'hui à quel point l'Évangile, la bonne nouvelle, est une bonne nouvelle. Pour nous qui souffrons, déposons nos fardeaux. On va voir une foule de versets ce matin, mais voici le verset clé. Si tu n'arrives pas à te concentrer très longtemps, au moins retiens le premier verset que nous allons voir. Psaume 68, verset 20, dit ceci. « Béni soit le Seigneur, chaque jour Dieu porte nos fardeaux et il nous sauve. » Il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de point d'exclamation en hébreu. Et donc, on peut mettre chaque jour avec louer Dieu. Louer Dieu chaque jour. Mais d'autres lisent « Chaque jour, Dieu porte nos fardeaux ». Quelle belle description. Venons aujourd'hui communier avec ce Dieu qui chaque jour porte nos fardeaux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il veut porter nos fardeaux qui sont trop lourds pour nous. Une autre traduction dit « Il nous prend en charge ». Alors vous êtes sous un fardeau aujourd'hui ? Vous êtes venu à l'église avec votre sac à dos rempli de fardeaux ? Ou tu connais peut-être quelqu'un qui a un fardeau ? Et ça le pèse ? Bien, sachez que Dieu est prêt à le porter pour vous. Alors il y a des fardeaux que nous sommes censés porter, je veux juste être clair par rapport à ça. Les exigences de Dieu, par exemple, obéir à Dieu, ça fait partie de notre vie chrétienne. On ne peut pas se décharger de ce fardeau-là. Mais ce fardeau n'est pas lourd. À quelques reprises dans la Bible, nous voyons qu'un fardeau lourd est le fardeau exigé par le moralisme. C'est un fardeau exagéré. Jésus même le dira, « Malheur à vous, professeurs de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter, que vous ne touchez pas vous-même d'un seul doigt. » Les professeurs de la loi étaient en train d'inventer des règles en plus, des règles supplémentaires. Ils n'étaient pas là pour porter le fardeau, le sac. Ils étaient en train d'alléger, d'alourdir la tâche. Un fardeau trop lourd du moralisme. Mais après Christ, par contre, quand l'Église considère quelles sont les exigences à imposer aux disciples non-juifs, ceux qui n'ont pas connu la loi de Moïse, ils réduisent les exigences à très peu de choses en acte 15. Et il dit ceci, « Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne pas vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. » Voyez-vous, le fardeau de l'obéissance à Christ n'est pas un fardeau lourd. Il y aura des exigences, oui, mais pas trop, pour que ce ne soit pas trop lourd. Jésus lui-même a dit, Matthieu 11, 30, « Mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. » On ne peut pas se défaire de ce fardeau-là. Obéir à Christ, ça fait partie de notre vie chrétienne, on ne peut pas supprimer cela. Mais il y a quatre autres types de fardeaux. Et je sais que ça va être un peu difficile d'en parler, et peut-être difficile d'y réfléchir, mais on va faire face à ces fardeaux ensemble ce matin. La culpabilité, la honte, l'anxiété et l'abus. Comment nous débarrasser de ces fardeaux ? On va commencer par la culpabilité et le psaume 103. Certains des versets seront projetés, mais d'autres, je vous invite à les trouver. Le psaume 103, que nous avons lu à notre réunion de prière cette semaine, dit ceci. Je vais juste lire deux versets, psaume 103, verset 10. « Il ne nous traite pas conformément à nos péchés. Il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. » Arrêtons-nous sur ça, parce que c'est quand même extraordinaire. C'est le contraire de ce qu'on pense. Il nous traite conformément à nos péchés. Il nous punit comme mérite nos fautes. On dirait que c'est normal. Mais il y a un pas là-dedans. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés. Et puis verset 12, encore plus magnifique. « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » Dieu ne nous traite pas conformément à nos péchés. Alors le péché existe, c'est un problème pour chacun de nous. Personne n'est bon. Et Dieu ne nie pas la réalité. Il ne fait pas semblant que ce n'est pas grave. Il ne fait pas semblant qu'il n'y a pas de péché en nous. Il prend le péché au sérieux, mais il prend aussi le péché loin de nous. Vraiment, vraiment loin. Et cette bonne nouvelle s'applique à ceux qui reconnaissent Christ comme leur sauveur et leur maître. Si tu es en Christ, le Seigneur a enlevé ta culpabilité. Et donc si nous restons avec un sentiment de culpabilité, qu'on se sent nul, qu'on se sent mal, on a oublié que Dieu est intervenu pour qu'il enlève nos péchés. Il y a 8 chapitres de l'Épître aux Romains, les premiers 8 chapitres de la lettre aux Romains soulignent ce point, nous sommes justifiés par la foi en Christ. Merci Léon pour cette lecture en Romains 5. Mais regardez Romains 8, verset 33, ça va être affiché. Romains 8, 33. Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qu'est-ce que ce verset veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a personne qui puisse nous accuser ou nous condamner. Nous sommes justes parce que Christ est mort pour nous et qu'il vit aujourd'hui et il est pour nous. Bien sûr, ce n'est pas nous qui nous justifions. C'est basique, mais je pense que c'est nécessaire de le dire. C'est très, très important. Nous ne pouvons pas nous en sortir en disant à Dieu, « Oui, mais ce que j'ai fait est normal. Je suis qu'un homme, après tout. » Ou « Oui, j'ai fait quelques péchés, mais j'ai aussi fait des bonnes œuvres. » C'est une façon de nous justifier ou de nous excuser. Ça ne marche pas comme ça. Nous ne pouvons pas nous justifier. Mais nous pouvons nous en sortir en voyant notre péché et en voyant notre Sauveur. Et la grandeur des deux. John Newton a été connu pour plusieurs choses. C'était un ancien esclavagiste du XVIIIe siècle et qui a, après sa conversion, écrit des cantiques à la gloire de Dieu. Certains sont encore chantés aujourd'hui, mais on ignore qu'il a été pasteur pendant un moment aussi. Et il a écrit et dit ceci. Quand on lui demandait de résumer un petit peu sa foi, il a dit ceci, « Je sais que je suis un grand pécheur et que Jésus est un grand sauveur. » C'est simple, n'est-ce pas? C'est tellement clair. On ne minimise pas le péché. Je suis un grand pécheur. Mais on ne minimise pas non plus la grâce de Dieu et la grandeur du sauveur. Il est un grand sauveur. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alors pour commencer, si ton fardeau est le péché de ta jeunesse que tu ne parviens pas à oublier, un péché après ta conversion que ça te fait encore de la peine, un péché qui est devenu répétitif, la maman qui s'énerve sur ses enfants, l'homme qui boit trop, c'est normal que ces choses nous fassent de la peine. Mais la réponse est simplement de se repentir. Ce qui signifie, je reconnais que c'est mal devant Dieu. Je reconnais que devant Dieu et selon ses critères, ce que j'ai fait est mal. Je l'avoue devant Dieu. Mais je lui demande aussi d'enlever ce péché, de l'ensevelir avec Christ. Et donc, de l'enlever, de l'éloigner de moi, et puis on n'en parle plus. Après avoir fait cela, le souvenir de tes péchés ne devrait pas te déprimer. Le souvenir de tes péchés devrait te rendre reconnaissant au Seigneur parce que tu peux dire, même pour ça, il m'a pardonné. Qu'est-ce qu'il a été bon envers moi? Quel qu'il soit ton péché, il y a un remède dans le sang de Jésus au calvaire. Premier fardeau, la culpabilité. Deuxième fardeau, c'est la honte. Celui-ci est un peu différent comme fardeau. Le péché est vis-à-vis de Dieu. La honte est vis-à-vis des autres. On peut avoir de la honte pour certaines choses qui ne sont pas de l'ordre du péché. On associe souvent la honte avec l'adolescence. Vous étiez honteux pendant votre adolescence. Honteux de nos vêtements, pas la bonne marque, pas la bonne taille. Le sentiment de gêne par rapport à la voiture familiale peut-être, ton papa venait te chercher devant l'école européenne dans sa vieille bagnole qui avait le même âge que toi quand tu étais ado. Ça peut être gênant l'adolescence. Je constate néanmoins que ça nous suit dans l'âge adulte, mais plus avec les mêmes choses. Quand on est adulte, on a nos vêtements, on les a achetés, voilà, c'est nos vêtements. On a la voiture qu'on a, voilà, on fait avec. Mais on a de la honte par rapport à d'autres choses, et c'est relié à notre statut. On n'a plus le statut qu'on avait auparavant. Un homme qui perd son emploi, par exemple, il a un sentiment de honte. Ou une femme qui ne se sent plus si jeune, elle est gênée par rapport à ça. Ou quelqu'un qui ne s'en sort pas avec la technologie peut aisément se sentir diminué, impuissant. Peut-être que pour toi, c'est autre chose, c'est le fait d'être illégal. ne pas avoir le statut légal en Belgique ou ne plus être marié. Ou peut-être de vivre avec les conséquences d'une maladie. Tu n'as pas imaginé que tu devrais vivre avec ça. On trouve même aujourd'hui que des personnes qui sont très haut placées, qui semblent avoir réussi, connaissent le syndrome de l'imposteur. Vous savez ce que c'est le syndrome de l'imposteur ? C'est qu'elles se sentent indignes de la fonction qu'elles occupent. Elles sont qualifiées pour le rôle qu'elles ont dans l'entreprise, dans les affaires, mais elles se sentent indignes, pas qualifiées pour cette tâche. C'est le syndrome de l'imposteur. Alors on va lire des textes de la Bible maintenant, mais je voulais juste évoquer, dresser le portrait de la honte en quelque sorte, pour qu'on saisisse que c'est vraiment un poids, la honte. Un poids qu'on veut éviter. Tournez les pages de la Bible vers l'épître aux Romains, et je vais lire Romains 10, versets 9 à 11. Toujours l'évangile ici, mais on est en train de voir le lien entre l'évangile et la honte. Romains 10, verset 9. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice, et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut. Comme le dit l'Écriture, celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Pas de honte. C'est une promesse pour l'avenir. Ceux qui ont mis leur confiance autre part pourraient bien être dans la honte, pour être couverts de honte pour l'éternité, parce qu'ils seront au dépourvu quand Jésus revient. Dans l'embarras. Mais nous qui croyons en Christ, nous qui avons la stabilité de mettre notre confiance en Christ, nous n'aurons pas ce sentiment de honte. Pour l'éternité, nous serons libérés du sentiment de la honte parce que nous serons sauvés. Et lorsque Paul écrit à Timothée, en 2 Timothée 1, verset 12, il dit « J'endure ces souffrances, mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder le dépôt qu'il m'a confié jusqu'à ce jour-là. » Vous voyez où est son regard ? Au lieu de regarder aux gens pour qu'ils affirment qu'il est quelqu'un de valorisé, il regarde à Dieu, en celui en qui il a cru. Il trouve sa valeur. Alors nous voulons tous être validés, nous voulons tous être valorisés. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu approuve de nous. Dans un beau texte en Hébreux 11, verset 16, il est dit « Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, notre Dieu. » Quelle phrase formidable, n'est-ce pas ? Dieu n'a pas honte ? Non, il n'a pas honte de ceux qu'il adore. Il n'a pas honte de ceux qui le suivent, de ceux qui croient jusqu'au bout. Oui, dans ce monde, il y a des fois où nous ressentirons l'opprobre du monde. Les gens nous verront d'un mauvais œil. Pourquoi ? Parce que nous nous identifions avec Jésus, le Messie crucifié. Et effectivement, il y a une certaine honte à être attaché ou identifié avec Jésus, le Christ crucifié. Hébreux 13 parle d'être humilié avec lui. Mais après l'humiliation dans cette vie, il y a la gloire à venir. Il y a le fait d'être reconnu et honoré dans la présence de Dieu quand Jésus reviendra. Ça, c'est notre avenir, frères et sœurs. Alors, quel changement par rapport à notre quotidien ? La prochaine fois que nous sommes tentés d'être gênés parce que nous n'avons pas ce que les autres ont, rappelons-nous ce que nous avons, l'approbation de Dieu sur nous. Dans la Bible, Dieu est décrit comme le Dieu de la veuve et de l'orphelin. Pourquoi eux en particulier ? Parce que ces personnes qui n'ont pas de mari, pas de parents, elles pourraient se sentir mises à l'écart, gênées. Mais le Seigneur vient. Et il devient leur mari. Il devient leur père. Et Ésaïe 54 parle de cela de manière formidable. N'aie pas peur, car tu ne seras pas couverte de honte. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Au contraire, tu oublieras la honte de ton adolescence et tu ne te souviendras plus du déshonneur de ta période de veuvage. En effet, ton époux, c'est celui qui t'a faite. Et son nom est l'Éternel, le Maître de l'univers. Celui qui te rachète, c'est le Saint d'Israël. Et on l'appelle Dieu de toute la terre. On peut se décharger de notre honte. Troisième fardeau, l'anxiété. C'est possible que la culpabilité ne pèse pas sur toi et que tu es indifférent à la honte, mais le fardeau que tu portes jour après jour est l'anxiété, parce que tu as peur pour ton avenir. Et c'est vrai, les choses ne se passent pas toujours comme on l'a prévu, les choses peuvent mal tourner. Nos projets peuvent échouer et notre filet de sécurité peut être enlevé. C'est impressionnant de voir les acrobates, n'est-ce pas, qui font des voltiges. Vous avez vu cela au cirque. Mais c'est beau, ils ont la confiance, ils ont une telle aisance. Ils se balancent et puis ils se jettent d'un endroit à un autre dans le ciel et puis ils se rattrapent. Mais en dessous, il y a toujours un filet de sécurité, au cas où ils tombent. Et nous, en fait, c'est pareil. Pour beaucoup d'entre nous, nous avons un filet de sécurité. Et je pense que c'est nos parents. Généralement. On sait que les parents sont là pour nous dépanner, que ce soit en termes matériels ou en termes de logement. On sait qu'on peut toujours rentrer, aller habiter chez papa-maman s'il le faut. Mais quand nos parents ne sont plus là, le filet de sécurité n'est pas là. Et si vous n'avez pas des réserves mises de côté, si votre épargne c'est zéro, que se passera-t-il si ? On se pose ce genre de questions, n'est-ce pas? On a tous ce scénario en tête. Tandis que ceux qui ont leur filet de sécurité, ils se sentent bien, ils peuvent dormir tranquille, nous pouvons être envahis par l'inquiétude. Nous nous chargeons alors d'inquiétude, comme d'un grand sac à dos, le sac à dos de l'inquiétude, ou peut-être le pyjama de l'inquiétude la nuit. Eh bien, là aussi, Dieu nous parle. Et dans l'épître de Pierre, 1 Pierre 5, verset 7, dit ceci. « Déchargez-vous sur lui de tous vos six soucis, car lui-même prend soin de vous. » C'est tellement normal, n'est-ce pas, que nous parlons de nos soucis avec ceux qui s'intéressent à nous. Tu as un ami, une amie qui est proche de toi. Quand tu as un souci, qu'est-ce que tu fais? Tu appelles ton ami. Tu n'imagines pas le souci que j'ai. C'est normal, on se décharge de nos soucis avec ceux qui s'intéressent à nous. Mais la bonne nouvelle ici, c'est que Dieu s'intéresse à nous. Dieu veut prendre cette place. Et donc notre réflexe ne devrait pas être d'appeler directement notre ami, notre meilleur ami, pour lui dire nos soucis. Et ça ne devrait pas non plus être de nous remettre à nous-mêmes en disant « bon, je vais trouver un moyen de m'en sortir ». C'est tellement le cas, n'est-ce pas? On dit « j'ai une inquiétude et je dois trouver une solution à ce problème, tout seul ». Et ça marche, ça? Ben non, ça tourne, on ne trouve pas de solution. Je lisais un article justement d'un acrobate parlant de filet de sécurité. Et cet acrobate, c'était intéressant de voir, il parlait du filet de sécurité, mais dans le sens figuré. Et puis il a dit ceci en fin d'article, « Le filet de sécurité est en toi. Confiance en soi, agilité, conscience, noyau fort et la force intérieure de ton esprit. » Et je voulais dire, non mon ami, c'est pas du tout ça. On ne sort pas de l'inquiétude en n'ayant plus confiance en soi. C'est nous qui sommes déjà décevants à la base. Non mais Dieu, Pierre évoque la puissante main de Dieu sous laquelle nous humilions, juste avant de dire on se décharge sur lui. Dieu est puissant. Et si on se décharge sur lui, Dieu est notre filet de sécurité. Notre premier réflexe donc, devrait être de prier quand nous sommes en difficulté. Seigneur, quelle est ta solution? Viens à notre aide. Glorifie-toi dans ma vie. Et ensuite, ayons comme réflexe, lorsque nous sommes dans l'inquiétude, dans le tourbillon de l'inquiétude, de pouvoir ruminer intérieurement sur les bienfaits de Dieu. Que ce soit des choses dans la Bible que Dieu a faites, des moments où Dieu est intervenu. Vous vous souvenez quand Le peuple de Dieu est sorti de l'Égypte, il pouvait passer à travers la mer Rouge, il devait toujours se souvenir de cela, n'est-ce pas? Mais ça peut être aussi quelque chose dans ta vie. Tu te souviens quand tu avais été inquiet par rapport à ça, et puis Dieu avait pourvu au bon moment la bonne personne? Tu te souviens quand tu avais eu très peur, et puis finalement, ça s'est bien passé, Dieu est intervenu? Eh bien, Dieu est là. Ce même Dieu qui t'a porté par le passé te porte aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est rassurant de le savoir. Et nous comprenons ici que l'adversaire de Dieu voudrait nous faire croire un paquet de mensonges. Il voudrait nous faire penser « Tu es affreux. Tu as une honte. Personne ne veut de toi. Tu es perdu. » Et nous devons contrer ces mensonges par la vérité. Je suis justifié, Dieu m'a pardonné, je suis en sécurité avec lui. On va prendre la vérité comme notre bouclier. Dernier exemple, et c'est un fardeau lourd aussi, il s'agit de l'abus. Beaucoup de gens ont vécu un abus. C'est toujours tragique, on ne sous-estime pas cela, les conséquences durent longtemps. 2 Samuel 13, on ne va pas lire le récit aujourd'hui, mais 2 Samuel chapitre 13 relate l'histoire d'un homme qui s'appelait Amnon, qui a violé sa demi-sœur, qui s'appelait Tamar. Elle était manipulée, piégée. Et il était un des fils de David, un prince dans le royaume, il était très puissant, pour avoir ce qu'il voulait. Et elle a essayé de le dissuader. Elle a dit, ce serait mal pour elle, ce serait mal pour lui, ce serait mal pour le royaume. Mais elle n'a pas pu se défaire, et elle a été violentée et puis méprisée par son abuseur. Il finit par être tué par un autre frère, c'est une forme de justice. Mais ce n'est pas à nous d'infliger la sentence aux autres, n'est-ce pas? Il y a des lois, et il y a surtout la justice de Dieu. Mais le portrait de ce chapitre montre vraiment la détresse de cette jeune femme. Et aujourd'hui, n'est-ce pas vrai que nous vivons dans un monde où la violence fait des ravages, et pas seulement à l'étranger, mais aussi ici, dans notre situation occidentale. On parle de violence dans la colère, du harcèlement et la pornographie que beaucoup dans notre société ont accepté comme quelque chose de normal pour les adultes, a eu des conséquences. Une étude récente montrait que 75% des femmes de 12 à 18 ans avaient reçu des photos d'hommes nus sans le demander. C'est hallucinant. Parce qu'on ne voit pas là les fruits de la pornographie. D'autres hommes sont tellement formatés par la pornographie qu'ils allient sexualité et violence et qu'ils s'imposent par la force. Alors, je ne veux pas raviver de souvenirs douloureux ce matin, mais je crois qu'il y a des choses à communiquer, deux choses à communiquer particulièrement aux victimes d'abus, que ce soit des abus sexuels ou des abus de pouvoir, pour se décharger sur Dieu du fardeau que tu portes. Il y a deux vérités. Tout d'abord, tu n'es pas coupable. C'est une chose tragique que la personne qui est victime souvent se sent coupable après. C'est comme si elle l'a mérité. Non, un abus n'est pas un acte de justice où tu reçois ce que tu mérites. C'est une chose profondément injuste. Une personne innocente subit le mal d'une personne puissante. L'abuseur prend quelque chose qu'il ne mérite pas et il inflige quelque chose que tu n'as pas mérité, c'est un abus. Alors je sais que oui, nous sommes tous coupables de quelque chose, on a dit tout à l'heure que le péché nous concerne tous, nous sommes tous coupables devant Dieu, mais dans une situation d'abus, c'est l'abuseur qui est coupable et la victime qui est innocente. Le garçon qui a été battu par son père ne devrait pas dire « Ah, c'est de ma faute, j'aurais dû me taire ». Le mari qui est trompé par sa femme ne devrait pas dire « Ah, c'est de ma faute, c'est parce que je n'étais pas suffisamment intéressant ». La fille qui est abusée ne devrait pas dire « Ah, je suis coupable parce que c'est de ma faute ce que mon grand-père m'a fait ». Non, tu n'étais pas coupable. Tu ne l'as pas mérité. Tu ne l'as pas cherché. Ça, c'est la première chose à dire, tu n'es pas coupable. Mais deuxièmement, ce n'est pas ton identité. Il y a beaucoup de façons de nous identifier. Nous sommes hommes ou femmes selon comment Dieu nous a créés. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Quelle valeur nous avons par cela. Et si tu es en Christ, en plus tu es adopté par Dieu dans la famille de Dieu. Tu es justifié comme nous l'avons vu. Et donc, femme battue ou homme mari trompé, garçon méprisé ou enfant abusé n'est pas ton identité. Ces choses ont eu lieu, c'est du passé. C'est un mal, mais ce n'est plus qui tu es. Alors tu peux en parler, on va te croire, on te soutiendra, mais commence à fonder ton identité sur la vérité de ce que Dieu dit que tu es aujourd'hui. Et là encore, très souvent, nous entendons le message « Regarde à l'intérieur pour ta valeur. Aime-toi. » Et nous voulons dire « Non, non, nous avons quelque chose de meilleur que l'amour que nous pouvons avoir pour nous-mêmes. Regarde à lui. » Parce que vous savez qui a été victime ? Jésus a été moqué, harcelé, torturé, battu. Ésaïe 53 dit que Jésus a été maltraité, il s'est humilié, il a été frappé à cause de la révolte de son peuple. Notre Dieu, voyez-vous, n'est pas abusif envers nous. Il ne vient pas nous écraser. Il vient envers nous. Il enlève nos péchés. Et il nous élève à lui. Au lieu de nous écraser, il a été écrasé pour nous. Ésaïe le dit comme ceci, en décrivant notre faiblesse et la sensibilité de Dieu. Il dit, « Il ne cassera pas le roseau abîmé. » Et il n'éteindra pas la mèche qui fume encore. Quelle image, n'est-ce pas, de fragilité. Un roseau, c'est déjà pas très fort. Mais en plus, le roseau, il est abîmé. La mèche, elle est presque éteinte. C'est pas ? Il n'y a plus rien qui brûle. Si, ça fume. Ça fume. Donc, il ne coupe pas. Il n'éteint pas. Il n'écrase pas. Mais qu'est-ce qu'il dit ? C'est en toute vérité qu'il révélera le droit. Dieu est juge. Nous pouvons nous confier à la justice de Dieu par rapport aux abuseurs, par rapport au mal qui a été infligé par les souffrances que nous avons vécues. Et nous avons besoin de nous décharger de tous nos fardeaux. Alors nous pouvons nous aider les uns les autres. On peut s'aider en ne faisant pas semblant que tout va bien. Ce serait bien mieux d'être dans une église où on sait que tel frère est alcoolique et telle sœur a des tentations homosexuelles et tel frère est un éternel inquiet et telle sœur est dépressive. Mais on s'entraide, on a de l'entraide. Que de garder notre belle réputation qui serait fausse en disant « Non, moi je vais bien, tout le monde va bien. » Nous avons besoin les uns des autres. Portez les fardeaux les uns des autres, dit la Bible, et accomplissez ainsi la loi de Christ. Mais surtout, nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin que ce Dieu fort, qui est capable de porter tous nos fardeaux, nous porte. Nous avons besoin de croire la vérité de Dieu et de qui il dit que nous sommes pour nous décharger, pour vivre. Alors prions que sa vérité soit dans notre cœur et qu'il nous apporte son secours. Béni sois-tu, Seigneur, chaque jour, tu portes nos fardeaux et tu nous sauves. Et nous voulons prendre cette promesse au sérieux. Seigneur, tu vois que nous sommes petits et faibles. Nos fardeaux sont lourds, nous ne pouvons pas les porter tout seuls. Nous avons besoin que tu les portes pour nous. Alors viens à notre secours, viens nous aider individuellement, que nous puissions aujourd'hui repartir de ce lieu en disant « Oui, j'ai un Dieu sur qui je peux compter. Le Tout-Puissant est là et je compte sur lui dorénavant. » Seigneur, aide-nous à comprendre que ce n'est pas seulement le paradis qui s'ouvre devant nous, mais c'est aussi une vie différente, une vie changée, une vie transformée, une identité fondée sur toi. Et donne-nous d'approfondir ces choses dans les mois, les années qui viennent, pour que nous puissions être plus stables, plus confiants, pas confiants en nous, mais confiants en toi. Et aussi plus joyeux, plus paisibles, parce que nous savons ce que tu as fait pour nous et que ça compte pour nous, parce que ça compte pour toi. Amen.